Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
1, 0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Mercredi 4 juin 2025, 6h avant minuit, l'heure de découvrir l'actu rennaise du jour. Et Syllab vous propose un nouveau jeu concours. Si vous avez écouté l'émission hier, vous avez peut-être entendu l'interview des membres de l'asso humanitaire Pengal Alayam, une asso qui vient en aide aux femmes et filles indiennes victimes de violences. Pengal Alayam organise deux journées de découverte de la culture indienne les 27 et 28 juin prochains à Janzé. C'est le Fest India. Et pour l'occasion, vous pouvez gagner une place pour le spectacle de danse et de musique indienne du Fest India. C'est le samedi 28 juin à 20h30 à la salle du Janciègue. Pour jouer et pour gagner, voici le mot de passe, le temple des femmes. C'est la signification de Pengal Alayam en tamoul. Rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash des Nora.
Des drones ont survolé la Freedom Flotillas dans la nuit. Il est 22h quand l'équipage du navire humanitaire en route vers Gaza donne la première alerte. Des drones ont été aperçus survolant leur flottille à 22h et 3h du matin. Les personnes à bord du navire ont aussitôt partagé leurs coordonnées GPS sur les réseaux sociaux, assurant que si une attaque était lancée, leur bateau ne tiendrait pas. Cette intimidation survient seulement quelques heures après qu'Israël ait annoncé avoir été alerté de l'arrivée de ce bateau et s'est dit prêt à l'intercepter. Ce matin, la députée insoumise Rima Hassan, l'une des passagères de ce convoi pour la paix, a assuré que personne n'a été blessé. Selon elle, les drones proviendraient de Grèce, un allié d'Israël. Aujourd'hui, l'ONU réclame un passage sûr du navire transportant des produits de première nécessité, conformément au droit international. Alors que la résistance citoyenne face au génocide en cours s'intensifie, la France continue de livrer des armes à Israël. C'est ce que le média d'investigation Disclose vient de révéler. Demain, entre 6h et 23h, un cargo israélien, le Kunship Era, va faire escale à Fos-sur-Mer, près de Marseille. Il doit embarquer en secret 14 tonnes de pièces détachées pour fusils mitrailleurs. C'est la société française Eurolynx qui en est à l'origine. Un fabricant d'armes qui se présente comme le fournisseur exclusif des forces israéliennes de défense. Le cargo repartira en direction du port d'Haïfa, dans le nord d'Israël. En réalité, ce serait la troisième expédition de ce type entre Fos-sur-Mer et Haïfa depuis le début de l'année 2025, assurent les journalistes. Alors que le syndicat général CGT des ouvriers dockers et des personnels portuaires du golfe de Fos viennent d'annoncer leur refus de charger ces conteneurs, le ministère des Armées n'a quant à lui pas souhaité réagir. Au Pakistan, la campagne d'expulsion afghane se poursuit également. Depuis début juin, on décompte 1500 départs par jour. Et depuis le 1er avril, plus de 200 000 Afghanes et Afghans sont rentrés dans leur pays. Les raisons avancées, expulsés, c'est eux accusés d'être liés au terrorisme et au narcotrafic, mais également de soutenir la contestation politique contre le pouvoir en place. Autre levier de pression annoncé, le Pakistan menace d'ici à fin juin de supprimer la carte de réfugiés délivrée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Aujourd'hui, plus de 1,3 million d'entre eux en bénéficient. Les organisations humanitaires rappellent le danger de pousser au retour des Afghanes et Afghans, rappelant que depuis l'été 2021, le pays est retourné aux mains des talibans. De retour en France, le policier auteur du tir ayant entraîné la mort de Naël va être jugé pour meurtre. Jusqu'ici mis en examen pour homicide volontaire, c'est désormais pour homicide volontaire que le policier sera jugé. C'est ce qu'ont annoncé le procureur et le président du tribunal de Nanterre. Devenu le symbole des violences policières, Naël avait été tué à bout portant par le policier qui contrôlait le véhicule qu'il conduisait le 27 juin 2023. Le communiqué s'attache à dire que rien ne démontre que cet homme était autorisé à faire usage de son arme en méconnaissance des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. Le policier, dont une cagnotte de soutien avait été créée, récoltant plus de 1,6 million d'euros, a annoncé faire appel de cette décision. Le procès devrait se tenir courant 2026. La Bretagne pourrait bientôt redevenir une terre de conquête, non pas pour les Gaulois moustachus, mais pour des chasseurs de minerais précieux. Derrière des noms dignes du panthéon celtique, un projet minier soulève bien des poussières et des inquiétudes. Notre journaliste a enfilé sa cape d'éco-détective pour vous raconter cette nouvelle ruée vers l'or. Attention, ça brille, mais à quel prix ?
Belenos, Taranis, Epona, ce ne sont pas les derniers chevaux de course à l'hippodrome, mais les trois noms choisis pour des projets de recherche minière dans l'ouest breton. Des permis de prospection déposés par Bresse Ressources, une start-up au nom bien local mais à l'accent canadien. Derrière, c'est Orania Ressources, société immatriculée aux Bermudes, menée par un certain Keith Barron, géologue à succès et millionnaire de l'or. Ce chasseur d'or aux allures de globe-trotteur lorgne sous les sous-sols entre la Bretagne et le Maine-et-Loire, dans l'espoir d'y trouver de l'or et des minerais rares. Ce qu'on retrouve dans nos téléphones, nos batteries, nos panneaux solaires, autrement dit ce que le monde s'arrache dans sa transition énergétique. Au total, 42 communes et une surface d'environ 850 km² sont concernées. Mais dans les communes, pas besoin de carte au trésor pour sentir monter la colère. Des collectifs d'habitants, des élus et des associations pointent le risque. Pollution des nappes phréatiques, déforestation, destruction des sols. Autre crainte, l'accaparement des terres. La Confédération paysanne alerte sur la menace que fait peser ce type de projet sur le foncier agricole déjà sous tension. Pour elle, cette ruée vers les métaux précieux s'inscrit dans une logique de surexploitation des ressources incompatibles avec la souveraineté alimentaire et la préservation des territoires ruraux. Il dénonce aussi un projet porté par des intérêts étrangers, sans garantie d'emploi local ni transparence sur les futures exploitations. Le préfet du Morbihan a tenté de calmer le jeu. Un permis de recherche n'autorise pas de travaux miniers et chaque forage devrait être validé au cas par cas. Bresse Ressources rappelle que seuls 1 à 5% des projets d'exploration dans le monde aboutissent à une exploitation. Car pour l'instant, on parle de permis de recherche, mais si le sous-sol brille, verra-t-on des mines rouvrir dans la région ? En Bretagne, les derniers ont fermé il y a plus d'un siècle. Une consultation publique est en cours jusqu'au 18 juin, mais la bataille des imaginaires a déjà commencé. Terre sacrée ou futur Eldorado industriel, une chose est sûre, on ne fait plus de l'or sans casser des cailloux. Et pour la planète, c'est peut-être le jackpot de trop.
Direction Rennes et son esplanade Charles de Gaulle, où un mystérieux bus a posé bagages. Allez, venez, je vous emmène. On est le mercredi 4 juin, j'arrive sur l'esplanade Charles de Gaulle et je m'en vais à la rencontre du bus du Cœur des Femmes. C'est la deuxième édition à Rennes pour ce dispositif itinérant qui mène à travers la France une vaste opération de dépistage des maladies cardiovasculaires. À savoir que c'est la première cause de mortalité des femmes en France, tuant une femme toutes les 7 minutes. Bonjour.
Bonjour.
Pour beaucoup des femmes avec qui j'ai discuté, pour elles c'est la première fois.
Oui. J'ai eu cette info par hasard.
C'est la première fois que je viens. J'avais déjà reçu par mail par rapport à ma mutuelle.
C'est une proposition qui a été faite par mon travail. Et du coup, j'en ai profité parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de vérifier comme ça notre cœur et de faire des examens un peu plus poussés.
Si pour certaines, c'est un simple contrôle, pour d'autres, elles ressentent déjà des symptômes.
J'avais du cholestérol et je supportais pas mon traitement. Et puis, en montant les escalators, par exemple, je suis essoufflée. Donc, je trouve que c'est très bien d'avoir un bilan comme ça, si complet.
Tout autour du parcours de santé, il y a un village associatif où de nombreuses associations se sont donné rendez-vous. Et j'ai pu discuter avec l'une des bénévoles de la Maison des Femmes.
Il nous semblait important d'être là, parce qu'on sait que finalement, une femme sur deux en fait, a subi des violences sexuelles ou sexistes pendant sa vie, son parcours. Faire connaître et aux professionnels de santé et aux partenaires, mais surtout aux femmes qui viennent là dans un parcours de soins, leur transmettre que cette maison existe, qu'elle peut être un lieu ressource, un lieu de vie pour elles, où elles peuvent avoir un suivi médico, psycho, social, juridique.
En me baladant sur le site, je suis tombée sur Aude Brunel, la co-organisatrice de la tournée bus du Cœur des Femmes.
Je suis là sur toutes les étapes. À la base, je suis chauffeur poids lourd et je conduis un des véhicules qui transporte le dépistage. Comme c'est un projet hyper intéressant, je me suis investie un petit peu plus et aujourd'hui, je suis sur l'organisation. Voilà. Mais lui, il va avoir des choses vachement plus intéressantes à vous raconter.
Très vite, elle me redirige vers Thierry Drillon, le cofondateur d'Agir pour le Cœur des Femmes. Et il m'a expliqué l'importance de ce rendez-vous.
Je vais vous donner trois chiffres. 2, 33, 200. 2, c'est le nombre de femmes qui malheureusement tous les jours en France décèdent d'un accident de la route. 33, c'est le nombre de femmes qui malheureusement tous les jours en France décèdent d'un cancer du sein. Et 200, c'est le nombre de femmes qui malheureusement tous les jours en France décèdent du cœur. Ce qui en fait la première cause de mortalité des femmes en France. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Agir pour le Cœur des Femmes, de façon à adresser cette urgence à la fois médicale et sociétal pour faire en sorte que, eh bien, on puisse faire de la prévention en action. Parce que la bonne nouvelle, c'est que dans 80% des cas, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie par de la prévention positive, bienveillante et efficace, comme nous le faisons ici à Rennes aujourd'hui.
Mais pourquoi les femmes sont-elles autant touchées ? Pour lui, quatre facteurs sont à l'œuvre.
D'abord, c'est lié à l'épidémiologie des femmes. Les femmes ont des artères qui sont plus fines, plus sensibles à un certain nombre de choses comme la charge mentale. La deuxième raison, c'est que les femmes sont soumises à leur vie hormonale, que ce soit la contraception, la grossesse ou que la phase de préménopause, qui sont des phases de plus grande fragilité d'un point de vue cardiovasculaire. La troisième chose, c'est que les femmes ont par tendance à s'occuper plus des autres que d'elles-mêmes, c'est-à-dire s'occupent de leur mari, leurs enfants, leurs parents et de leur environnement. Le quatrième point, c'est que les symptômes chez les femmes sont partiellement différents par rapport aux hommes. Une femme qui fait preuve de fatigabilité à l'effort, qui est crevée, qui a l'impression qu'elle est essoufflée dès qu'elle marche trois marches, qui a des troubles œsophagiens ou qui éventuellement a des migraines, eh bien on aura tendance à lui dire de prendre un Doliprane et de se reposer, sauf que c'est exactement la même chose et c'est la maladie qui se met en place. Les maladies cardiovasculaires touchent toutes les femmes, les plus jeunes comme les moins jeunes.
Le bus reste jusqu'à demain soir. Une centaine de professionnels de santé sont là pour vous accueillir, vous guider et vous écouter. Le parcours dure 2 heures, ce qui se ferait en médecine de ville sur 18 mois. Il vous suffit juste de vous inscrire.
Et je pense que je reviendrai une prochaine fois, quand ça reviendra. Voilà.
Des coupes budgétaires visent une association rennaise de protection de l'enfance, l'association L'Essor. Depuis 50 ans, elle accompagne chaque année près de 300 jeunes, pour la plupart des enfants, placés sur décision de justice. Une date anniversaire, certes, mais l'heure n'est pas vraiment à la fête puisqu'elle se retrouve contrainte de fermer son accueil. Cela survient dans un contexte global où les coupes budgétaires des collectivités mettent à mal de très nombreuses structures associatives. Le département d'Ille-et-Vilaine, lui-même victime des restrictions budgétaires de l'État, a décidé de diminuer ses aides de 50%. 2 crèches cherchent des enfants pour la rentrée. Non, vous ne rêvez pas, je peux même le redire. 2 crèches cherchent des enfants pour la rentrée. Ce sont les crèches Poupaine, situées au quartier de la Bélangeraie, et Tibugal, près du pont de Nantes. Seule particularité, les familles doivent s'investir dans leur fonctionnement à hauteur de 2h30 par semaine, et aussi s'engager dans un poste au sein de l'association, que ce soit sur les courses, le jardinage, le bricolage ou la communication par exemple. L'investissement donné à la crèche se décompte sur le tarif, alors plus avantageux que celui d'une crèche municipale. En tout, ce sont 21 places qui sont à pourvoir pour différents âges.
C'est la fin de ce flash, merci Enora.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Chemisier au motif bleu marine et or, Sandrine Vincent est maire de Chevenier et vice-présidente à Rennes Métropole, déléguée à la communication et aux relations aux citoyens et citoyennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ici pour nous parler du printemps citoyen, donc un mois pour célébrer la citoyenneté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est à l'initiative de cet événement ?
Eh bien, ce sont les habitants de Rennes Métropole. En 2022, donc c'est un projet qui a été travaillé avant, bien entendu. L'idée, c'est de rapprocher les habitants du territoire métropolitain, des politiques publiques portées par Rennes Métropole, et leur donner davantage de pouvoir d'agir, c'est-à-dire de rapprocher le citoyen de cette grande machine et belle machine qui est Rennes Métropole. Donc l'idée, ça a été de tirer au sort des citoyens, afin qu'ils élaborent ensemble, par le biais d'une convention, mais qu'ils élaborent une charte métropolitaine de la participation citoyenne. Quels outils, quels leviers ils ont envie de voir mis en œuvre dans cette collectivité pour agir, pour pouvoir s'exprimer.
Mmh. Et c'est ça qu'on appelle l'Assemblée citoyenne ?
Oui, aujourd'hui, donc, il y a eu cette convention avec 86 habitants tirés au sort. Et de cette convention, donc, il y a une assemblée citoyenne. Donc, de la même façon, le souci est de pouvoir préserver l'équité de représentation au sein du territoire, tirée au sort, et à le renouveler de façon progressive pour qu'il y ait les anciens et les nouveaux qui embarquent en fait, dans cette belle aventure inédite et expérimentale.
Mmh. Et ce tirage au sort, il a vraiment permis d'avoir une diversité dans les participants, participantes ?
Oui.
En termes d'âge, en termes de
profil. Oui, de même de représentation des communes. Autant que faire se peut, on est assez proches. Ouais.
Ok, donc cette année, à l'issue de ce travail avec l'Assemblée citoyenne, le fil rouge des événements, c'est être citoyenne et citoyen dans la métropole rennaise face aux nécessaires transitions. C'est un peu le mot-clé, ce mot de transition. Est-ce que vous pourriez revenir sur les coulisses de ce choix et nous expliquer un peu ce thème?
Donc, lorsque les citoyens dans la Convention ont travaillé ensemble, ils se sont aperçus que les communes du territoire mettaient en œuvre des outils de participation citoyenne et que même les habitants étaient assez novateurs. Et dans la charte, ils ont choisi de mettre le printemps citoyen comme un événement qui soit récurrent et qui puisse valoriser, et si vous voulez faire une sorte de vitrine, de ce qu'on pouvait déjà voir sur le territoire, tant au niveau des initiatives communales que d'habitants. Donc, au début, eh bien voilà, c'était simplement une vitrine, un recensement des actions mises en œuvre dans les différentes communes, auprès des différents collectifs d'associations. Et après, bon, il y a eu des bilans hein, avec l'Assemblée citoyenne. Donc, ils ont choisi de raccourcir, par exemple, la durée, okay. Et puis d'accentuer sur les transitions écologiques. Et du coup, le printemps citoyen aussi est affilié dans la fabrique citoyenne du climat.
D'accord. Et donc, il y a plus de 400 événements lors de ce printemps citoyen. Est-ce que c'est aussi les personnes de l'Assemblée citoyenne qui choisissent, qui sont à la manœuvre de ces événements? Comment ça se passe?
Alors, il y a un recensement fait auprès des communes qui ensuite demandent aux associations, à leur territoire, etc., de proposer en fait des actions qu'ils ont envie de mettre en valeur, qui existent déjà. Qui peuvent imaginer. On a aussi un partenariat, c'est important de le souligner, avec la MCE, la Maison de la Consommation et de l'Environnement, et l'ALEC, qui propose aussi des ateliers de sensibilisation autour de la transition du climat.
Donc l'ALEC, c'est l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat.
C'est ça,
pour préciser. Ouais, donc on parlait des événements, comment ils ont été mis en place par les citoyens, citoyennes.
Donc, y a un recensement qui est fait. Et puis, l'Assemblée citoyenne, voilà, un regard dessus. Puis, un groupe projet aussi à l'échelle métropolitaine. Par exemple, un événement qui ne serait pas gratuit et pas ouvert à tous ne serait pas, mis, en fait, voilà, dans le printemps citoyen, par exemple.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'événements en particulier qui ressortent de cette programmation, j'ai envie de dire?
Alors, il y a deux volets. Il y a le principe de citoyen, donc comme je vous disais, différents. Moi, je les trouve tous intéressants. Hein.
Ah ouais.
C'est difficile d'en faire un choix.
On ne pourra pas parler de tous, malheureusement, parce qu'il y en a plus de 450. Mais peut-être un mot sur nos lieux communs. Vous m'en parliez tout à l'heure hors antenne.
Voilà, donc nos lieux communs, c'est un projet qui est indépendant du printemps citoyen, même si voilà, il y a des ateliers pour faire découvrir les projets dans ce cadre-là. Nos lieux communs, c'est aussi une autre opportunité donnée aux habitants et collectifs d'associations de proposer des projets en faveur de la transition écologique. Donc on a recensé auprès des communes des lieux, des bâtiments qui pouvaient mettre à disposition de collectifs d'habitants et d'associations. Et donc, on en a 16 projets aujourd'hui sur 14 communes. Donc, il y a eu un appel à projets, des projets ont fusionné entre eux. Et aujourd'hui, c'est 16 projets. Donc, voilà, j'invite tous les habitants à aller voter. Donc, vous pouvez le faire en allant sur le site de la Fabrique citoyenne de Rennes Métropole et de mettre vos coups de cœur. Vous pouvez soutenir 3 à 5 projets. Mais c'est important de le faire, ne serait-ce que pour valoriser le travail des associations, puisque s'il y a un projet sur un site, il sera retenu. Mais c'est important de le soutenir et dire que vous l'appréciez.
Le but, c'est d'aboutir à combien de projets sur ces 16? Est-ce que les 16 peuvent se concrétiser?
Oui. Okay. L'idée, c'est qu'il y ait un projet par site. Ils ne sont pas concurrents entre eux.
D'accord.
Il peut y avoir une concurrence sur un site si deux projets, c'est le cas à Rennes.
Est-ce que vous avez des exemples concrets, par exemple, de projets qui commencent à émerger sur des lieux en particulier?
Là, sur les 16 sites, vous pouvez lire l'ensemble des projets. Donc, ça va être des tiers-lieux, ça va être balade sonore sur des anciennes lagunes d'assainissement, ça va être l'instauration d'une guinguette au sein d'une carrière, ça va être c'est vraiment des chouettes projets et variés, et vraiment les habitants
allez voir ça du coup sur internet. Il y a 16 projets à décrypter. On le voit bien aussi nationalement, les relations se délitent un peu entre élus et citoyens, citoyennes. J'ai lu tout à l'heure le rapport 2023-2025 du Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, je ne savais même pas que ça existait, qui compte 48 agressions par semaine contre des élus en moyenne. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'état des lieux dans la métropole et est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative comme le Printemps citoyen puisse aider à améliorer les choses?
Alors, j'en suis persuadée, je pense qu'il y a une défiance qui se joue entre la population et les élus, alors que voilà, je rappelle régulièrement que les élus sont aussi des citoyens et des habitants. Et ce type de projet, enfin, fait en toute transparence, permet voilà, de ces échanges-là. Par exemple, l'Assemblée citoyenne, quand elle se réunit, elle nous invite les élus, elle nous pose des questions, et voit bien que, voilà, je dis demain, ça peut être vous. Moi, je n'étais pas prédestinée à être maire, donc oui. Donner des leviers pour interagir diminue la défiance. Oui, elle existe, mais encore une fois, j'aime à dire qu'être élu, c'est une expérience formidable, une expérience démocratique, et j'invite chacun à s'y investir. Mm. Il faut aussi regarder le verre moitié plein. Mm.
Et vous qui êtes édile, vous l'avez dit, quelle est votre analyse, on va dire, de ces... je sais que vous voulez qu'on voit le verre à moitié plein, mais pour un peu essayer de creuser le sujet, comment ça s'explique un peu ces défiances? Est-ce que vous avez vu les choses évoluer dans un sens ou dans l'autre je ne sais pas depuis combien de temps que vous êtes élue?
J'ai été élue en 2014.
D'accord, donc ça fait plus de 10 ans.
Plus de 10 ans, ouais.
Donc comment est-ce que vous avez vu les choses évoluer? Quelle est votre analyse de la situation? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que ça vient du gouvernement plutôt national? Est-ce que les gens ont moins de patience? Je ne sais pas.
Alors peut-être aussi dans un monde qui est devenu moins altruiste, plus individualiste, où l'intérêt collectif est moins mis en avant qu'avant. Ça, on l'observe tous. Voilà, on le déplore dans nos associations, moins de bénévoles. Donc il y a aussi ce mouvement-là. Je dirais aussi qu'il y a la presse qui accentue, il y a des élus, il y a des bons et des moins bons, et qui accentue parfois de parler que ce qui va mal, mais... Encore une fois, il faut aussi parler de ce qui va bien. Je pense que c'est une tendance générale, mais voilà, je ne la vis pas non plus, moi, en disant non. Enfin, c'est...
Ça va.
Après, voilà, je suis maire d'une petite commune, peut-être c'est différent dans d'autres territoires, mais voilà, peut-être l'individualisme, et la défiance aussi vis-à-vis de la politique en général peut expliquer ça.
Et dans cette volonté donc de retisser des liens et de promouvoir une démocratie participative, est-ce que à la métropole de Rennes, vous avez envie d'aller plus loin avec d'autres initiatives? J'ai vu que l'interpellation citoyenne, elle est ouverte depuis novembre 2024 à la métropole, mais il y a eu uniquement 6 interpellations. En tout cas, il y en a 6 sur le site. Pourquoi si peu? Est-ce que vous avez envie de plus communiquer sur le sujet, d'essayer d'aller plus développer cette participation citoyenne?
Alors vous, ça vous paraît peu, mais en fait, on était agréablement surpris.
Ah
que... ouais, voilà.
D'accord.
Nous, on était déjà, tiens, c'est bien, en fait, cet outil-là est connu, il s'en empare. Alors là, il est en pause.
Oui, parce que les municipales arrivent.
Voilà, donc... c'est ça. Mais en fait, on était agréablement surpris, parce que c'est récent. Et déjà, 6, c'était bien. Après, voilà, c'était peut-être pas le meilleur outil parfois pour que l'habitant ait signifié ce qu'il avait à dire. Pour autant... c'était en fait un levier qui a été utilisé. Donc, j'ai envie de dire, on en avait quand même 6.
Ok, d'accord.
Ouais.
Peut-être terminer sur un appel. Pourquoi c'est important de s'engager localement? De quelle manière les personnes peuvent le faire sur notre territoire?
Déjà, à l'échelle associative, participer aux AG de ces associations, déjà, c'est encourager les bénévoles qui y sont, donner un peu de son temps. Aller voir un conseil municipal parfois aussi, voir comment ça se passe.
C'est ouvert à tous et toutes.
C'est public. Un conseil municipal est public. Et questionner ces élus. Là, et leur dire quand ça va et quand ça va pas. Enfin, souvent, voilà, on est à portée de baffe, comme on dit. C'est toujours agréable de dire aussi, ça, c'était chouette. Parce que ça encourage aussi les gens qui s'investissent. Voilà, c'est pas une mission de vie, mais c'est, voilà, on empiète sur... différentes perspectives de sa vie. Donc, c'est oser. Voilà. Oser s'engager, c'est pas fait que pour les autres.
Peut-être un mot sur les événements qui viennent dans la semaine, là, pour dire aux gens ce qui se passe près de chez eux. Est-ce que vous avez un ou des événements à nous...
Alors sur Rennes, j'ai noté, j'ai regardé avant de venir, parce que je ne vous cache pas que je ne connais pas l'ensemble des événements par cœur. Il y a des ateliers d'upcycling, il y a des balades pour découvrir les oiseaux. À Oro, je crois que c'est un comptage des oiseaux, donc des fresques des climats, puis aussi des ateliers autour des transitions. Il y en a sur plusieurs communes. Et puis à Champy, j'ai trouvé intéressant cette initiative, c'est comment embarquer les gens dans le vélo taf. Et donc en faisant un itinéraire à s'essayer, parce que parfois on n'ose pas. Mmh. Et donc comment on accompagne en fait pour une première expérience. Ça c'est sur Champy, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à aller voir le programme sur le site.
Tout à fait. Eh ben, merci. Je rappelle que le printemps citoyen, c'est jusqu'au 21 juin. Merci à vous.
Merci.
6 heures avant minuit.
Une nouvelle chronique dans 6 heures avant minuit, ça s'appelle Lumière basse et c'est signé Maëva.
Bon, voilà, c'est la première, maintenant faut y aller. Alors vous voici dans Lumière basse, la chronique où on parle de cinéma, mais pas du dernier Marvel ni du film où tout le monde meurt sauf le chien. Ici on braque la lumière sur celle qu'on ne voit pas assez, des cinéastes à contre-courant et surtout qui nous aident à regarder le monde autrement, par la petite fissure dans le mur, un mur qui s'appelle parfois société, violence, silence, genre, classe, bref. On s'intéresse à celle qui éclaire l'ombre sans projecteur géant, qui travaille en contre-jour. Aujourd'hui, je vous embarque dans un cinéma qui ne crie pas, mais qui murmure des vérités qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et derrière la caméra, une réalisatrice belge à la voix douce, au regard tranchant et au parcours aussi sinueux qu'un travelling de Godard un jour de gueule de bois, Alex Poukin, notre première invitée par procuration. Alors déjà, fun fact, Alex Poukin n'avait pas prévu de faire du cinéma. Elle aurait pu devenir philosophe, comédienne, ethnologue ou chercheuse en Jordanie. Oui, ça aurait fait une très bonne biographie LinkedIn, mais c'est au milieu de Wadi Rum, ce désert aux airs de science-fiction, qu'elle tombe par hasard et presque par magie sur une bande de documentaristes français. Elle découvre alors l'école documentaire de l'USAS. Résultat, elle rentre en Ardèche, et c'est là, dit-elle, qu'elle vit la plus belle année de sa vie, comme quoi la révolution peut commencer au fond d'un petit village avec des chèvres et une caméra. Mais venons-en à Sans frapper, son film qui, lui, ne laisse personne indemne, sorti en 2019, l'histoire commence avec une confidence. Après la projection de son premier film, une fan lui raconte son viol. 9 ans après les faits, une parole longtemps enfouie. Comme c'est souvent le cas, Alex décide d'en faire un film, mais sans tomber dans le piège du réalisme cru ou de la reconstitution choc, à la place 14 personnes, hommes et femmes, qui interprètent cette même parole. Ada, c'est celle et eux, tous ensemble.
Il ne s'agissait pas d'une histoire individuelle, mais d'une histoire politique, globale, mondiale, et que peu importe à quoi ressemblait Ada, peu importe qui elle était au final, son histoire faisait partie de l'histoire de tous. C'est un problème structurel, ce n'est pas un problème individuel du tout, ni une somme de problèmes individuels.
Ce choix de mise en scène, c'est une façon de dire « le viol n'est pas une scène, c'est une mémoire collective, on ne regarde pas, on écoute et en écoutant, on comprend ».
C'est une femme sur 5. Enfin, on dit que la parole s'est libérée. Moi, j'ai l'impression que la parole, ça faisait des années qu'elle était libérée. C'est juste que tout d'un coup, il y avait quelqu'un pour écouter.
Et ça résume bien son approche, faire un film sur le viol sans être dans l'horreur ni dans la pitié, mais dans la complexité, celle des émotions, des réactions, des souvenirs. Et dans un monde où tout doit être spectaculaire, elle choisit de ralentir, de regarder autrement, de tendre l'oreille là où d'autres détournent le regard. Et justement, aujourd'hui, 4 juin 2025, sort en salle son tout nouveau documentaire « Sauf qui peut ». Un titre qui sonne comme une alerte, mais qui cache une profonde exploration du monde hospitalier. Dans ce film, Alex nous plonge au cœur des ateliers de simulation médicale où de vrais soignants s'exercent avec de faux patients, incarnés par des comédiens-comédiennes à annoncer des diagnostics difficiles. L'objectif, développer l'empathie, cette qualité humaine essentielle, mais souvent mise à mal dans un système de santé sous pression.
Il y a un scénario pour une femme de 35 ans, homme de 40, un homme de 60.
Je suis très mal à l'aise d'avoir souri quand vous avez dit que votre père il avait eu un cancer. Et votre mère, pareil, j'ai dit très bien.
Mais au fil des séances, la frontière entre jeu et réalité s'estompe. La simulation devient un exutoire, révélant les tensions, les doutes et parfois les souffrances des soignants eux-mêmes. Le film interroge alors, peut-on réellement être bienveillant dans une institution maltraitante ? Ce qu'on retient d'Alex Poukine, c'est son attention aux autres. Elle ne s'impose pas, elle capte, elle recueille, elle relie. Elle fait du documentaire comme on tisse un lien, avec soin et avec respect. Merci d'avoir prêté l'oreille à Lumière Basse. À la semaine prochaine. En attendant, éteignez Netflix, ouvrez grand les oreilles et laissez entrer un peu d'ombre.
Mais merci à toi Maëva. À bientôt pour un nouvel épisode du coup.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Oui, coucou à l'équipe de 6 heures dans la nuit, c'est Benoît de Saint-Malo, fidèle auditeur de Syllabe et bien sûr futur dans l'équipe. Donc, petite info locale que je viens de dénicher aujourd'hui. Il y a un petit festival du côté de chez moi, donc entre Mignac-Morban et Saint-Pierre-de-Pléguin. Alors, c'est le festival Pélo Loco, qui est situé à Tressé, donc sur le village de Tressé, donc commune fusionnée entre Saint-Pierre-de-Pléguin et Lan-et-Lin, qui s'appelle Mini Rock. Et il y a une super belle programmation dans ce petit festival. Il y a Big Red de Raga Sonic, donc ça c'est déjà très pas mal. Il y a les Éclopés, donc un groupe ska punk très pas mal. Hein. Bon, j'ai écouté ça récemment dans ma voiture. Il y a les Verts Cassés, donc un groupe afro soul punk. Il y a Flag Deep John, donc c'est du rap électro que je ne connais pas du tout. Il y a Iris Tile, donc je sais pas ce que c'est, ça non plus. Il y a Sungonal Band, donc c'est un groupe de musique du monde. Donc franchement, moi qui adore ça, donc je vous recommande. Il y a Broad Air, donc c'est ouais, à peu près de la techno et tout ça. Et puis bien sûr, une artiste de Syllabe, une artiste locale de Rennes, bah, il y a bien sûr Argalouv qui est présente dans ce festival-là. Donc voilà, et puis ben, il y a des animations pour enfants, il y a un spectacle pour les 3-11 ans dans ce truc. Il y a un camping, donc vraiment pour ceux qui voudraient monter jusqu'à Rennes, de Rennes à Tressé, donc il y a un camping sur place. Il y a la restauration, la buvette et tout, donc ça se passe à Tressé, c'est ce samedi 7 juin à partir de 14h. Et pour la prévente, c'est 10 euros sur le site Hello Asso. 12 euros sur place, hein, bien sûr, donc il faut compter 2 euros de plus. Hein. Gratuit pour les moins de 12 ans, et puis ben voilà, j'espère qu'il va faire beau samedi prochain, parce que quand même, pour un tout petit festival qui organise ce samedi 7 juin à Tressé, j'espère qu'il va y avoir un peu de monde ce jour-là. Donc voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine, et puis... si j'ai d'autres infos sur place, eh ben, je vous dis ça plus tard. Et puis ben voilà. Bon allez, gros bisous à vous. Ciao.
Merci Benoît. Faites comme Benoît. Laissez-nous un message vocal si vous avez envie de vous exprimer. On parlait de ça un peu hein, pendant l'interview. Donc si vous avez des choses à nous dire en tant que citoyen et citoyenne de Rennes, ça marche aussi vraiment. C'est Libre Antenne. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Vous pouvez faire plus court aussi. Benoît, il est très exhaustif dans ses messages vocaux, mais il y a possibilité de laisser juste un petit coucou en 15 secondes aussi. N'hésitez pas. 02 30 96 25 35. Merci Eva et le T pour la technique. À demain dans 6 heures avant minuit.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de Doha.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.